Je commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, un livre, oui mais quel livre? Avec L'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous aider, vous guider et vous conseiller. Alors aujourd'hui on va revenir un peu aux basiques en fait, les basiques on va dire de base. On va parler de livres hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'auteurs dans nos dernières émissions, on a beaucoup parlé de choses, mais on n'a pas souvent parlé de livres dernièrement quand même, on a beaucoup parlé. Alors on va reparler d'un auteur, du coup je suis désolé, ça va être quand même des livres mais sur un auteur, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors c'est un peu compliqué toujours de parler d'un auteur qu'on aime, parce que du coup on s'aperçoit qu'on a, tout ce qu'on dit est assez subjectif on va dire. Mais je vais essayer, je garantis rien mais je vais essayer. Alors cet auteur c'est Jean-Claude Mourleva, beaucoup de gens le connaissent certainement, c'est un des plus grands auteurs de jeunesse française, faut être honnête. C'est un très grand nom de la littérature jeunesse. Et surtout, c'est quelqu'un que moi j'adore, hein, spécialement, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas. Donc son premier livre, alors on va parler de trois livres aujourd'hui. On va essayer d'en parler de trois, on va parler d'un livre jeunesse et de deux romans ados. Alors le premier titre que je voudrais aborder avec vous, c'est le roman jeunesse. Donc paru chez Gallimard Jeunesse et Hors Piste, La Balade de Cornebeek. Ah, Cornebeek. Alors il faut aimer les boucs et les banjos, et les piloirs. Alors La Balade de Cornebeek, c'est une fable animalière, c'est une histoire... en forme de conte d'un côté, puisque l'histoire c'est Cornebeek, c'est un bouc musicien qui joue du banjo, qui fait des poèmes et qui est très très amoureuse de... J'ai perdu son nom par contre, je vous avoue, parfois les prénoms. Et très très amoureux. Et au moment où il pense, enfin, le jour de la déclaration, vu qu'elle veut le voir, tant attendu, il est là, il a tout prévu, il est prêt, et ben non. Elle préférait qu'il fasse l'intermédiaire parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Grosse déception et gros chagrin d'amour pour notre ami, mais qui décide finalement, plutôt que de baisser les bras, il décide plutôt de partir en voyage. Après tout, c'est bien, il fallait bien un moment, et c'était un très bon moment. Du coup, il va partir avec son banjo, voilà, sur les chemins. Il va rencontrer un petit loir, pied, un truc comme ça. Un petit loir. Donc c'est sympa un petit loir, hein. c'est super sympa un petit loir. Bon, on s'adore 9 mois par an, donc forcément la communication est un peu limitée parfois. Il a un peu toujours l'impression de se réveiller d'une sieste, ce garçon. Mais du coup, il est très très sympa jusqu'au jour où, bien sûr, il va se faire capturer. Donc s'ensuit une aventure au pays des griffus. Donc les griffus qui sont des espèces de hyènes, je crois, c'est des hyènes. Donc voilà, c'est une fable très anthropomorphique, c'est une fable animalière, c'est... beaucoup d'humour, notamment le jeu de gros mots, enfin le concours de gros mots qui était génial. Il y a plein de choses dans ce roman, ça donne envie de jouer du banjo, pour ceux qui ont envie. Ça donne aussi envie de partir à la mer, ça donne envie de partir vagabonder, ça donne envie de partir randonner, ça donne envie d'aller dans la nature, ça donne envie de donner des banjos au bouc aussi, pourquoi pas. Ça donne envie de faire plein de choses, et c'est vraiment un très très bon roman. Enfin, voilà, il est juste génial, il est drôle, fin, très intelligent encore une fois. Ça, c'est une des marques de fabrique de Jean-Claude Mourleva, je trouve, dans ses textes. On va le voir dans ses romans ados aussi. Il a peu de textes, finalement, qu'on pourrait dire, dans un certain sens, gratuits. Dans le sens gratuit, j'entends, c'est une histoire qui serait peut-être moins développée ou avec moins de conseils. Là, il y a quand même tout le temps une morale un peu intelligente, il y a toujours une histoire très intelligente. Donc ça, c'est la marque de fabrique des grands, je pense, et la marque de fabrique de Jean-Claude Mourleva surtout, et il le fait très très bien, c'est-à-dire qu'il arrive, sans le vouloir, à nous mettre dans l'ambiance et à nous dire, à nous apprendre quelque chose aussi sur l'humanité, puisque bien sûr, la fable, là, parle de l'humanité aussi. Un très très grand roman pour des 9-10 ans, des CM1, des CM, on va dire, des CM, jusqu'à pas d'âge, puisque même les adultes peuvent le lire, et beaucoup s'amuser. Et le deuxième, alors, les romans ados, c'est toujours chez Gallimard, il a publié tout chez Gallimard, en fait, de toute façon, pratiquement. Donc le deuxième, c'est Terrienne. Alors Terrienne, c'est une histoire un peu particulière pour le coup, pour ma part, puisque quand il est sorti, il était très bien ce livre, mais quand il est sorti à une époque où finalement, nous en jeunesse et en roman ado, on avait moins de grands titres à mettre en avant, et qu'il est sorti celui-là, on a fait « cool ». Puisque Terrienne, c'est encore une histoire, c'est une histoire très adolescente pour le coup, Et vachement intéressant. Donc l'histoire est très simple. Anne, je crois qu'elle s'appelle Anne, un jour a assisté il y a un an au mariage de sa sœur avec un jeune homme. Donc jusque-là, bon bah rien de normal, hein. Rien de bien anormal en tout cas plutôt. Et du coup très bien, super mariage, voilà. Mais Anne ne sent pas le mari, mais bon, instinctivement on va dire, elle a du mal à y faire confiance. Et il s'avère qu'elle a raison puisque le lendemain de son mariage, cette jeune fille disparaît juste après son mariage. Donc ce qui se passe, c'est que Anne est sans nouvelles jusqu'à un an plus tard, si je me trompe pas, c'est un an plus tard qu'il se passe que du coup on va avoir des nouvelles par la radio, je crois. En allumant sa radio, elle entend un appel au secours de sa sœur, elle est persuadée que c'est un appel au secours de sa sœur. Et elle décide de partir à la recherche de cette sœur qu'elle a perdue. Et accompagnée d'un vieil auteur qui va la prendre en stop du côté de campagne, puisque nous sommes dans une campagne, et la ville vers laquelle se dirige s'appelle Campagne. 3,5 km pour être précis, ce panneau. Et à 3,5 km, on rentre dans un autre monde. Un monde aseptisé, froid. Les gens ne respirent pas d'ailleurs. Ils sont bloqués, sécuritaires, tout est géré, tout est ordonné, tout est contrôlé. Tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. D'ailleurs, la plupart des hommes sont victimes, meurent d'ennui en fait, là-bas, a priori, puisqu'ils sont victimes quand ils ont 50 ans. On les appelle les assis, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'assoient au milieu de la rue. Et ils ne bougent plus. Et ils sont emmenés par une brigade sanitaire qui les emmène dans des grands fours. C'est pas... Voilà. Je vais pas vous faire de dessin. Malheureusement, on sait ce qui s'y passe. Et cette jeune fille va partir à la recherche de cette sœur dans ce monde totalement... qu'on imagine blanc, vous voyez. Mais un blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est immaculé. Tout est propre. Il n'y a pas de bruit. Pas de respiration, d'ailleurs. Ce qui fascine la personne chez qui elle loge. Puisque la personne chez qui va la loger dans un hôtel... est fasciné par les êtres humains, parce qu'eux ne sont plus humains, on va dire. Ils sont à la limite de la robot. Et elle ne comprendra d'ailleurs pas tout de suite qu'est-ce qu'on veut à sa sœur, en fait. Parce qu'ils ont capturé sa sœur, bien sûr, puisque c'est un kidnapping. Mais elle ne sait pas pourquoi. Donc elle va devoir enquêter avec cet écrivain, puis ensuite avec Bran, je crois qu'il va s'appeler Bran, le jeune homme. Un jeune homme mi-ses créatures, si on peut dire, et mi-humain, puisque sa mère était une humaine classique, elle aussi, qui a été kidnappée de la même façon, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va enquêter. Donc, on va avoir une histoire qui va se découper en plusieurs temps. Donc, ce côté enquête dans cet univers blanc, cette résolution d'énigmes, bien sûr, cette histoire d'amour aussi, puisqu'elle n'est pas insensible au charme de Bran. Mais il y a plein de choses, et il y a surtout cette question aussi sur la sécurité, la liberté. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, là, ce qui va se poser comme... problématique pour Anne, c'est ce monde en fait, ce monde qui existe finalement, qui nous emmène encore une fois à la manière d'un conte, on y croit, c'est tout à fait cohérent, c'est nous emmener dans cet univers particulier, et fascinant par bien des aspects, et surtout effrayant par bien des aspects, puisque la sécurité poussée à son terme fait que du coup on s'ennuie, en fait il se passe plus rien, c'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de rien faire, et donc il ne se passe rien. C'est impressionnant, c'est donc ce côté course à la sécurité où ça pourrait nous emmener, quoi. Et la course à la sécurité, bah voilà, on sait bien que ça peut donner des choses assez horribles. Et là, pour le coup, ça va nous donner quelque chose d'assez assez horrible et assez dur, assez effrayant d'un côté d'ailleurs. Ils sont effrayants puisque justement leur côté sécurité fait le côté aussi efficace. C'est-à-dire qu'on va avoir une grande efficacité, une grande diligence de leur service de police puisque justement ils gèrent tout. Donc c'était un grand roman, vraiment un très très grand roman, un très bel univers décrit, même si très très effrayant, très bien décrit. Jean-Claude Mourlevoy aussi maîtrise très bien ses descriptions d'univers, on va dire, maîtrise la création d'univers particuliers, puisque ces univers ont cette capacité à être, et ça se voit encore plus dans le troisième, ces univers particuliers qui sont en fait pas tout à fait réels, mais en même temps tellement proches de nous, c'est-à-dire qu'il va modifier deux, trois choses juste pour arriver à quelque chose d'un peu fantastique, on va dire, puisque bon, des humains qui ne respirent plus ou qui ne... Voilà, c'est pas très logique, mais il y arrive parce que justement, il y croit. Et comme lui, il y croit, ben nous, on y croit. Et c'est vraiment un très, très grand roman. Et maintenant, je vais vous parler du troisième, mais non des moindres, un des grands, grands romans de Jean-Claude Mourlevin, pour moi, par le plus grand qu'il ait fait en jeunesse. Le combat d'hiver. Le combat d'hiver. Hein. Ah, tout le monde en sait quelque chose. Et d'ailleurs, en voulant préparer, enfin, en regardant pour l'émission, petite info Alors, c'est peut-être pas un spoiler parce que c'est partout sur Internet. Et d'ailleurs, c'est pas annoncé officiellement, a priori, mais il y aurait eu une époque, une année, alors je sais pas, faudrait voir, à une année, un projet pour adapter le combat d'hiver en film. Là, c'est la petite info que j'ai trouvée l'autre jour, en voulant regarder un truc sur le combat d'hiver, justement. Puisque c'était ma petite info du jour, en fait, que j'ai vu ça, j'ai fait, tiens, en 2014, il y a eu un projet. Alors, je sais pas si c'est abandonné, si c'est toujours en cours. J'avoue que j'ai pas eu plus d'infos que ça. Mais bon, ça peut faire un excellent film, vous allez comprendre pourquoi. Le combat d'hiver. Le combat d'hiver, c'est un... Nous sommes en 1960, 68, je sais pas trop. D'ailleurs, il n'y a pas d'année, hein, ce que je veux dire. C'est que, enfin, même avant, on pourrait dire qu'on est même avant, puisqu'on a des voitures à traction avant et des voitures qui démarrent à la manivelle. Donc, on est même bien avant. Pour l'impact technologique, on va dire qu'on est là-dessus. Et on va avoir quatre enfants, quatre adolescents. Je sais plus les noms, je suis désolé. Les noms, je les ai perdus entre-temps. Quatre adolescents qui sont dans des orphelinats placés par la phalange qui est en quelque sorte le pouvoir, notre Big Brother, leur Big Brother. C'est le pouvoir politique en place et tout le monde est d'accord avec ce pouvoir ou meurt en général. Voilà, c'est un pouvoir dictatorial. Et ces quatre adolescents qui sont placés par ces orphelinats par cette phalange, la phalange étant tellement sympa qu'elle leur a trouvé des orphelinats qui peuvent vivre ensemble et tout ça, parce que voilà, leurs parents les ont abandonnés, leurs parents sont des monstres. Ces quatre enfants vont découvrir une chose qui va tout changer, puisqu'ils vont être contactés par des hommes chevaux. Alors, il faut voir que dans ce roman, il va jouer sur la génétique, en partie, puisqu'on va avoir différentes races d'hommes qui sont aussi des hommes, donc des hommes animaux, mais des hommes animaux avec des caractéristiques humaines physiques et des caractéristiques animalières. Je m'explique. Les hommes chevaux, notamment, sont assez bêtes dans le roman, si je puis dire. Ils ont une intelligence simple. Bonne mais simple, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Mais par contre, c'est des excellents postiers, facteurs et des excellents chevaux de trait, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent remplir le travail, sauf qu'ils peuvent parler, qu'ils ont une culture aussi de leur côté. Et notamment, les hommes chevaux sont souvent employés pour délivrer des colis, parce qu'ils sont très têtus. Ils sont extrêmement têtus, d'ailleurs, on va le voir dans le roman. Et quand on leur donne une lettre à transmettre à quelqu'un ou à un endroit, ils vont y aller tout le temps, ils vont y attendre, même s'ils mettent 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est ce qui va se passer pour cette lettre, puisque cette lettre a été envoyée par un des parents, d'un des quatre enfants, je ne sais plus lequel exactement, mais un des quatre enfants qui va être contacté par un des hommes cheval, qui a donc fait plein d'orphelinats avant de tomber sur la bonne personne, en fait, mais il a continué. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point ils sont têtus. Et ces hommes chevaux donc et ces enfants vont découvrir qu'en fait leurs parents n'étaient pas des parents indignes, si je puis dire, c'était des résistants. Ils étaient contre ce pouvoir dictatorial et les enfants vont donc s'échapper. Et ils vont s'échapper, ils vont essayer de, en fait, pas sans, en le voulant finalement réellement au bout d'un moment, mais par manque de choix, puisque la phalange va les rechercher, va envoyer des hommes chiens. Donc comme son nom l'indique, ce sont des hommes à moitié chiens et qui ont donc la capacité de retrouver les traces, mais en ayant plus un côté humain aussi, qui vont envoyer, ils vont reprendre le combat en fait de leurs parents, parce qu'ils vont avoir pas trop le choix en fait finalement, puisqu'ils vont être recherchés par la phalange, ils ont deux choix, c'est soit essayer de s'échapper, sachant que c'est pratiquement impossible de leur échapper, soit déclencher à nouveau la révolution qu'ont déclenché leurs parents et essayer de gagner cette fois-ci quoi. C'est ce qui va se passer. Ils vont s'appuyer sur leurs compétences communes, finalement, puisqu'on va avoir une des jeunes filles, par exemple, qui a hérité de la voix de sa mère, qui était une grande chanteuse. Et cette chanteuse cette voix transportait un peu les gens. Et donc, sert de point de ralliement, en fait, à la révolution. Ces messages vont passer par cette voix. On va avoir les autres qui vont, ainsi de suite, en fait. Chaque personnage va avoir son petit talent, si je puis dire. Mais voilà, chaque combat est fait de sacrifices aussi, est fait parfois de souffrance. Et c'est une magnifique histoire de révolution, en fait, qui va nous raconter une histoire de liberté, bien sûr. Et c'est un des romans les plus forts que je connais. Je le compare pas tout à fait, parce que c'est pas tout à fait le même univers, mais vraiment qui se rapprocherait d'un 1984 de George Orwell, par exemple, pour le côté, justement, Big Brother, si je puis dire, donc la phalange dictatoriale. Même s'il y a moins de choses par rapport à ça, mais il y en a d'autres différentes, en fait. C'est pour ça qu'il est assez différent quand même. Mais c'est l'histoire de ce combat. C'est l'histoire de ce combat, et je trouve que ce roman est fort parce que justement, un combat ne se fait pas sans sacrifice, ne se fait pas sans souffrance. Et du coup, on va souffrir avec ces personnages. On va vouloir les voir gagner, on va vouloir les voir survivre, on va vouloir les aider de tout notre cœur. Et c'est ça qui est la grande force de Jean-Claude Mourleva, c'est quand il nous emmène quelque part, eh ben, on est avec eux, on est avec ces personnages. C'est vraiment un très très grand roman que ceux qui n'ont pas lu, je vous encourage à le lire. C'est un roman très adolescent, assez dur d'ailleurs, d'un côté. pas avant 14-15 ans quand même, mais c'est vraiment un des plus grands romans. Et je vois l'heure qui défile, je vais devoir m'arrêter malheureusement de vous parler de Jean-Claude Mourleva, qui est quelqu'un que j'adore. Mais alors, n'oubliez pas, les livres s'achètent en librairie, s'empruntent en médiathèque, et surtout quand c'est du Jean-Claude Mourleva, on peut y aller les yeux fermés. C'est un grand, grand monsieur. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.